Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du studio Kalangou dans une présentation de Balkissa Midou. Célébration aujourd'hui, dernier vendredi du mois de Ramadan de la journée mondiale d'Al-Quds ou Jérusalem instaurée par Ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, les échos dans cette édition. Vous suivrez dans cette édition la quintessence du rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO sur les besoins en aide alimentaire de certains pays africains dont le Niger. La partie magazine de cette édition est consacrée aux normes et réglementations à suivre pour obtenir l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie au Niger. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de Jérusalem, une journée dédiée depuis 1976 en guise de soutien au peuple palestinien face à l'occupation d'Israël. Cheikh Aboubakar Barham, prédicateur, estime que cette journée est d'une importance capitale dans la vie de tout musulman. Il est joint au téléphone par Adam Adawachi.
Au Niger, je ne suis même pas sûr qu'on trouvera 20% ou 25% de la population qui est sensibilisée à cette question. Consacrer une journée mondiale à cette question très importante pour permettre à l'humanité de prendre conscience, d'être sensibilisée de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un pays, la Palestine. Il y a une capitale, Jérusalem. Il y a une mosquée, Al-Quds. Donc, c'est trois choses qui soulèvent des questions régulièrement. Pourquoi? Parce que depuis pratiquement la guerre mondiale, depuis que l'État juif existe, la Palestine n'a plus de souveraineté. Ce pays a été morcelé. Israël a construit des murs partout dans ce pays. Israël a chassé les Palestiniens. Ils sont devenus des parias pour en venir à la mosquée. Là encore, Israël l'occupe. Alors que cette mosquée fait partie des trois saintes mosquées de l'islam, à savoir la Mecque, Médine et Jérusalem. Ce sont ces trois lieux saints que nous, les musulmans, nous avons. Donc cette mosquée, normalement, doit être un facteur d'unité.
Autre aspect de cette édition, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a fait hier jeudi le point sur la situation des pays ayant besoin d'aide alimentaire externe. Plusieurs pays du Sahel, dont le Niger, figurent parmi la liste. Le résumé avec Assoumane China.
Selon les rapports de la FAO sur les perspectives de récolte et la situation alimentaire, de plus en plus de pays ont besoin d'une aide alimentaire externe en raison des conditions climatiques. Cette liste compte maintenant 39 pays à travers le monde, soit deux de plus, le Sénégal et le Cap-Vert, par rapport à l'année dernière. La persistance des conflits et les chocs défavorables contribuent à l'aggravation de l'insécurité alimentaire. Ainsi, tous les pays sont restés sur la liste qui comprend 31 pays en Afrique, dont le Niger. D'après le rapport, les conditions climatiques défavorables représentent également un lourd fardeau pour les éleveurs en Afrique de l'Ouest. Les conflits au Nigeria et en Libye ont entraîné une baisse de la demande en viande et une forte chute des revenus de nombreux ménages pastoraux dans la région du Sahel, où les ressources en pâturage et en eau sont déjà limitées et où la saison creuse actuelle devrait durer plus longtemps que d'habitude. Les dernières prévisions de la FAO pour la production mondiale de céréales en 2018 prévoient une baisse annuelle de 1,5% par rapport au niveau record atteint l'année dernière.
Entamée en mars dernier, la vente à prix modéré des céréales se poursuit dans la commune urbaine de Filengué, région de Tillabéri. Le sac du mil et celui du maïs se vendent à 13 500 francs CFA. Jubo Hamidou, magasinier à l'Office des produits vivriers du Niger de Filengué, nous donne plus de précisions sur la répartition des tonnages dans la commune. Propos recueillis par Abdoulaye Bagassa.
Par rapport à la vente à prix modéré, on a bénéficié du mil et maïs. Dans les 70 tonnes, le centre principal de Filengué bénéficie de 75% du tonnage, qui fait 17 tonnes 500. Talcho bénéficie de 21 tonnes 800. Louma bénéficie de 7 tonnes 800 et Tulunda Misa bénéficie de 7 tonnes 300. À part ça, on a bénéficié de ventes spéciales. Il y a le spécial Ramadan, sucre. Filengué commune a bénéficié de 11 tonnes. Il y a 25 tonnes aussi de riz chinois. Pour le sucre, et le riz, c'est par kilo. Pour les vivres, c'est la tia. La tia, ça se vend à 385. Le kilo du sucre à 350 et le kilo du riz à 275.
La suite de cette édition, la campagne agropastorale 2017 a été déficitaire en matière de fourrage, selon le secrétaire permanent du collectif des associations pastorales du Niger Kapan. Actuellement, il y a un manque crucial de paille dans les zones pastorales du Niger et cette situation inquiète beaucoup les éleveurs. Suivant les explications de Tijani Alou Aboubakar, secrétaire permanent du CAPAN, propos recueillis par Soumana Amadou.
Les éleveurs qui sont nos membres, pour le moment, ils ne pleurent que le manque de sang. Et on est en pleine soudure pastorale. Et je pense que l'État est en train de s'atteler pour que ce sang-là soit mis à disposition au niveau de tous les départements. Avec le PRAPS, on est en train d'entrer dans une logique d'une zone pastorale globale. Si aujourd'hui au Niger il n'y a pas de paille, le soin est terminé. Donc tu as la possibilité, tranquillement, si tes animaux sont vaccinés, d'aller vers les autres pays du PRAPS. Prochainement, ce à quoi on va faire face, c'est la pression foncière. Tous ceux qui sont au nord Mali, au nord Burkina vont descendre dans les champs. Et dès maintenant, si on ne fait pas attention, c'est des conflits encore champêtres parce que eux là-bas, ils sont chassés parce qu'il y a l'insécurité. Et quand ils reviennent par là, il y a les champs. Donc, comment il faut faire?
Afin de relancer l'économie de la région d'Agadez et décongestionner les marchés déjà existants, un projet de construction d'un nouveau marché de bétail est en cours de réalisation à Agadez. Il sera contigu à la gare routière de la ville, comme nous l'indique Rissa Feltou, maire de la commune d'Agadez, au micro de Anissé Karim.
Le projet d'ouverture de marché bétail est, qui s'appellera le marché bétail Zinto, c'est pour vraiment créer un meilleur cadre de vie aux populations que nous avons songé depuis maintenant plus d'un an. Donc c'est un marché vraiment mieux organisé, bien élaboré. En ce sorte que dans ce marché, vous trouverez 4 parcs. Donc chaque parc pratiquement sera occupé par soit les chameaux, soit par les ânes, soit par le petit ruminant. Il y aura un poste vétérinaire, donc il y aura à contrôler effectivement la santé animale. Il y aura un poste de police effectivement qui aura à assurer la sécurité, effectivement, à veiller sur la quiétude de ce marché. Il y aura les services, effectivement, de prélèvement de taxes et de surveillance des marchés. Il y aura un service de salubrité qui sera là pour s'occuper de l'aménagement et de la salubrité aussi de ce marché. Il y aura des petits aménagements, des voies qui vont conduire jusqu'à ce marché. Et en face de ce marché, il y aura un autogare, donc qui va encore faciliter les transports des marchandises ou des animaux. Actuellement, toutes les commodités, en tout cas, sont réunies pour que ce marché puisse être fonctionnel et encore booster l'économie de la commune.
La fête de Ramadan marque la fin du mois de jeûne pour la communauté musulmane du monde entier et celle du Niger en particulier. À quelques jours de la célébration de la dite fête, les chefs de famille s'adonnent aux préparatifs, à savoir l'achat des habits pour les femmes et les enfants ainsi que l'acquisition de la volaille pour le repas de fête. C'est le cas de Moussa Sidikou qui estime que l'habillement de ses enfants est prioritaire. Il explique au micro de Moutari Mohamed.
Je suis père de famille, marié polygame avec 3 enfants. C'est vrai, c'est bientôt la fête. Le pays traverse une crise économique. Aujourd'hui, les aliments coûtent cher. Les habits des enfants, les habits des femmes également. Face à cette situation, nous les hommes, il est hors de question pour nous de prétendre à de nouveaux habits. De fait, ce sont les enfants qui sont très exigeants. Pour la femme, si tu trouves une femme compréhensive, elle peut comprendre qu'il n'y a pas. Mais les enfants, ils ne vont jamais comprendre cela. Quel qu'en soit l'état de choses, tu es obligé de faire quelque chose à la mesure de témoins pour les enfants, même si c'est de leur acheter des friperies. Nous nous créons des problèmes nous-mêmes par le fait de prendre des crédits. Ce qui est mieux d'ailleurs, c'est de ne pas se faire endetter, car la fête va se passer et après tu vas te retrouver avec des problèmes. Dieu même l'a dit, il ne faut pas se faire porter des charges que l'on ne peut pas porter. Aller prendre des habits à crédit, des aliments à crédit, les volailles à crédit, les condiments à crédit. Après la fête, si tu n'arrives pas à remplir tes engagements, eh bien, quand vous allez vous retrouver avec celui qui t'a donné ses biens, eh bien, ce serait la honte.
Ans déjà que l'arbre du Ténéré, repère indispensable aux usagers qui traversent le désert nigérien et autres caravaniers, a été percuté par un camionneur. Pour immortaliser cet arbre légendaire, un mausolée a été érigé au musée national Boubouhama à Niamey. Que peut-on retenir de cet arbre d'environ 300 ans en plein désert nigérien? Ibrahim Moussa Abdelaziz, assistant en accueil et orientation au musée national Boubou Hamadou Niamey, au micro de Gungou Maman Dantani.
L'arbre du Ténéré a été renversé en 1973 par un camion libyen transporté au musée national le 8 novembre 1973 par les forces armées nigériennes. L'arbre devait avoir 300 ans. En 1938, quand on avait foré le puits qui est à côté juste de l'arbre, on a remarqué que l'arbre s'alimentait à travers la nappe phréatique située à environ 36 mètres de profondeur. Ce puits a été creusé en 1938, plus précisément en hiver 1938, et c'était dans la période coloniale. Ce sont les militaires français qui ont creusé ce puits pour faciliter le transit dans la région.
Alors, à ce jour, qu'est-ce qu'il y a à l'emplacement de cet arbre?
Oui, à l'emplacement de l'arbre du Ténéré dans le désert actuellement, il y a une structure métallique représentant donc l'arbre qui a été planté depuis 1974, un an après son déracinement.
Un groupe d'étudiants en géographie de l'université Abdou Moumouni de Niamey a établi la cartographie numérique des zones inondables le long du fleuve Niger de la région de Niamey. C'est un projet pilote financé par la Banque mondiale visant à prévenir les inondations récurrentes et les conséquences sur la vie socio-économique des populations riveraines. Les détails avec Fatimane Alher, l'une des initiatrices de ce projet, au micro de Moussa Hassan.
Notre cartographie, c'est une cartographie numérique participative qui est toujours en ligne. Donc ça consiste à faire des relevés socio-économiques, en même temps d'avoir les points de vue des populations qui habitent tout au long de ces fleuves Niger, parce que c'est les populations qui sont concernées par ces fléaux. Cette cartographie consiste à faire des entretiens, des enquêtes de ces populations qui sont vulnérables. Et en même temps, on a des smartphones qui nous permettent de prendre des relevés géographiques. On a aussi des imageries drones. Vraiment, ce sont des imageries récentes de la ville de Niamey. Donc, ces imageries nous ont permis de vraiment localiser l'endroit exact et les ménages précis qui a été inondé ou bien qui est vraiment vulnérable à ces inondations. C'est vraiment une cartographie qui va permettre à la population de Niamey de prévoir les inondations. Car ce qu'on a l'habitude de faire au Niger, c'est la gestion des inondations. C'est après là qu'on cherche des solutions. Alors que cette cartographie est vraiment un outil de prévention de ces inondations.
La partie magazine de cette édition est consacrée aux normes et réglementations à suivre pour obtenir l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie au Niger. Docteur Danouhou Barira, directrice de la pharmacie et de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé publique, nous en dit plus sur les normes au micro de Adam Dawach.
Il faut d'abord que la personne soit pharmacien et qu'elle bénéficie d'une autorisation d'exercice à titre privé de la profession de la pharmacie par rapport au local, donc un plan du local, parce que il y a des plans types de pharmacie. On doit avoir un espace de rayonnage qui respecte les bonnes pratiques de conservation des produits. C'est-à-dire, il faut des grandes fenêtres, il faut un certain nombre de mètres entre le plafond et une ventilation.
Quelles sont les conditions de conservation des produits pharmaceutiques?
Donc, il y a plusieurs conditions. Vous avez d'abord les produits qu'on dit de la chaîne de froid. Donc, ces produits qu'on parle de la chaîne de froid, je peux donner un exemple, c'est par exemple les vaccins. Ils doivent être conservés entre 2 et 8 degrés. Donc, il faut un réfrigérateur qui garantit cette température-là. Maintenant, vous avez plusieurs catégories de produits où les conditions de conservation sont marquées. Je peux vous dire, par exemple, des produits qu'il faut conserver, par exemple, à une température, des fois, inférieure à 30 degrés. On dit à l'abri de la lumière et de l'humidité. Il y a des produits à conserver à moins de 25 degrés, par exemple, les sirops.
Est-ce que la climatisation est une obligation?
C'est une obligation parce que le pharmacien, il sait ce que c'est que les conditions de conservation et c'est que le non-respect des conditions de conservation peut entraîner sur le produit. Il y a certains produits où on peut remarquer à vue d'œil le changement qui intervient quand les conditions de conservation ne sont pas respectées. Vous avez par exemple un certain nombre de sirops qui changent de couleur. Il faut garantir les conditions ambiante. Donc l'ambiance, c'est beaucoup de choses. Il y a le fait de ne pas exposer la pharmacie au rayonnement solaire. Il y a plusieurs façons de créer les conditions qui font en sorte que la température qui est à l'intérieur de la pharmacie soit différente de la température qui est dehors. Il y a ceux qui sont très rigoureux, ils ont des thermomètres de salle pour vérifier est-ce que vraiment les produits sont dans les conditions. La durée, ça dépend de ce qu'on appelle la durée de vie du médicament. Les produits courants, c'est 36 mois. Pour certaines catégories, par exemple les comprimés, c'est la date de péremption qui détermine la durée de conservation. Pour les sirops, vous avez la durée de conservation, des fois on dit après ouverture. S'il y a une inspection et qu'on constate que les pharmaciens ne respectent pas, donc il y a une mise en garde qui est adressée aux pharmaciens. Maintenant, la mise en garde, ça dépend de l'infraction. Après la mise en garde, vous avez beaucoup de pharmacies aujourd'hui qui sont mises en demeure. Ça veut dire que la personne ne peut plus exercer l'activité pendant une période jusqu'à ce qu'elle régularise l'infraction. La période, ça peut varier de 3 mois. Par exemple, si la période passe et que la pharmacie ne régularise pas, ça va jusqu'à l'abrogation des textes qui créent la pharmacie.
Chers auditeurs, ainsi s'achève cette édition. Restez en compagnie des programmes du studio Kalangou pourra suivre le forum de la presse dans une présentation de Rahila Toussoumane.